Radio Okapi. Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quels sont les préalables à réunir pour l'organisation des bonnes élections? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service tout à l'heure avec l'honorable Mubobo Nzama, député honoraire. Honorable Willy Mubobo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Nous aurons tout à l'heure également Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des électeurs. L'honorable Patrick Mugnono sera également de la partie. Il est député national élu de Goma. Des questions et préoccupations par rapport aux élections, appelez au 081 890 63 94. Comment protéger les villages contre les attaques des éléphants et autres bêtes féroces? Nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission Okapi Service à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous pouvez également poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Jean-Claude Siala et à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission de la vie au quotidien. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi vous propose cette semaine une série d'émissions sur le volet protection des civils du mandat de la MONUSCO. Qu'entendez-vous par protection des civils et comment cela se passe concrètement sur terrain? Des précisions dans nos émissions interactives, magazines thématiques, dossiers et reportages à suivre sur Radio Okapi, la radio de la paix en FM et sur la toile. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service, qui s'intéresse aujourd'hui aux élections. Quels sont les préalables à réunir pour l'organisation, pour organiser des bonnes élections? Vous savez, l'organisation des élections en 2023 fait déjà couler beaucoup d'encre et des salives au sein de la société congolaise. Cette question divise déjà l'opinion publique. Certains estiment qu'il est important de procéder d'abord au recensement général de la population et d'entamer les réformes de la Commission électorale nationale indépendante. Pour d'autres, on peut déjà procéder à la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Alors, quels sont les préalables à réunir pour la tenue des bonnes élections en République démocratique du Congo en 2023? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Vous voulez participer? Composez le 081 890 63 94. Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi par rapport à cette question. Honorable Willy Mubobo, bonjour.
Bonjour, Jody Kachama.
Bien, vous êtes député honoraire. Alors, d'après vous, aujourd'hui, la question des élections défraye la chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les préalables à réunir, selon vous, pour organiser des bonnes élections?
Bon, moi, je pense que la première des choses serait de réformer la CENI et avant de choisir les animateurs. Et la deuxième voie ou la deuxième possibilité doit être de réformer la loi électorale. Et la loi électorale, en se basant sur la loi électorale de 2006, qui n'était pas mauvaise, qui malheureusement au Congo, une chose qui réussit même à 60%, on cherche à la modifier. Donc, si on doit recourir à la loi électorale de 2006, en révisant quelques articles, par exemple, on doit revenir avec le système à deux tours, présidentiel à deux tours, et je crois qu'il y a encore pas mal de préalables qui sont d'ordre sociologique et politique. Par exemple, il faut avoir des politiciens de bonne moralité. Je sais que ce sont des oiseaux rares dans notre pays. Et interdire la remise d'argent et autres biens aux électeurs pendant la campagne jusqu'au jour de vote. Et ne tenir que les discours politiques, sociaux et économiques du parti. Ce serait une bonne chose. Et je disais aussi qu'on doit dépolitiser la CENI en mettant les femmes et les hommes de bonne moralité qui existent tant bien même dans notre pays. Et que la Cour constitutionnelle ait elle-même de bons résultats, bureau par bureau, circonscription par circonscription électorale, afin de constituer des preuves pour contradiction en cas de conflits électoraux. Elle ne peut pas exiger de preuves des candidats lésés. Ceci va décourager les fabricants de faux résultats. Et je crois que, dans un premier temps, je trouve que ce sont les préalables pour avoir de bonnes élections en RDC.
Bon, certains pensent qu'il faut peut-être commencer par recenser la population parce qu'on n'a pas encore une idée du nombre total de la population congolaise.
Mais revenir à ça, c'est ce qui a fait tomber, fait couler de l'encre en 2016. On doit répéter de bonnes choses et non de mauvaises choses. Nous nous sommes battus, les amis de la démocratie sont battus, et je crois que c'était en 2015, pour ne pas que cette thèse-là soit la condition préalable pour avoir les élections. Et surtout qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est de l'UDPS, qui prône la social-démocratie, moi je ne pense pas qu'elle peut oser faire comme les autres l'ont fait.
Voilà, donc d'après vous, pour organiser des bonnes élections, on doit commencer par réformer la loi électorale. Okay? Qu'est-ce qui doit être réformé concrètement dans cette loi électorale? Qu'est-ce qui pose problème?
On rentre à la loi de 2006, où les partis politiques sont mis en exergue. On rentre aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la présidentielle à deux tours. Et là, ça va vraiment booster la démocratie parce qu'il y aura deux tendances qui vont se distinguer et les deux tendances vont aller et là vont aller au deuxième tour et là on peut avoir beaucoup de chances d'élire un bon président qui va réunir les gens parce qu'il y aura des coalitions qui vont se faire selon peut-être les idéologies ou selon les convenances au préalable.
Voilà. À part le scrutin à deux tours, qu'est-ce qu'il faut également changer dans cette loi électorale?
Bon, moi j'ai toujours voulu que les Congolais de l'étranger puissent aussi voter. Et que les enfants qui sont nés et qui ont changé de nationalité des parents congolais puissent voter aussi, quelle que soit leur nationalité. Si je voulais dire que si on pouvait passer à double nationalité pour les Congolais d'origine, ça sera aussi une bonne chose parce que c'est aussi une bonne frange de Congolais qu'on exclut des élections.
Donc qu'on autorise la double nationalité pour permettre aux compatriotes qui sont à l'étranger de participer également aux élections. Et vous avez parlé du scrutin, de l'organisation du scrutin à deux tours. Bien. Alors, on va donner la parole à Monsieur Jérôme Bonso. Il est président de la Ligue nationale des électeurs. Il vient de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Jérôme Bonso, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, nous parlons des préalables à réunir pour l'organisation des bonnes élections en 2023. Aujourd'hui, la question défraye la chronique. Certains disent qu'il faut d'abord pas procéder au recensement de la population, général de la population. Pour d'autres, il faut désigner d'abord les animateurs de la CENI. Alors, dites-nous, Monsieur Jérôme Bonso. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes élections en 2023?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose pour avoir les élections dans le délai constitutionnel pour éviter le glissement. C'est ça le souci qui anime la plupart des compatriotes congolais. Pour avoir les élections en 2023, vous savez que les élections, chers amis, se préparent pendant 2, 3, 4, 5 ans. Mais les élections, on fait l'élection le même jour, un seul jour seulement.
Un seul jour, mais on prend beaucoup de temps de préparation.
Oui. Et là, on fait à l'aise. Mais dans le cas de ce qui concerne la République démocratique du Congo, est-ce que nous sommes capables de dire demain c'est élection? Nous disons non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des hypothèques ou préalables qui pèsent. Mmh. Est-ce que nous avons la maîtrise de notre registre d'état civil? Nous nous connaissons combien vont, qui sont Congolais, qui ne le sont pas, qui vont voter? Non. Premier préalable, il faut avoir le fichier électoral. Or, le fichier électoral...
Il faut le mettre à jour.
Pas seulement à jour, c'est la résultante de l'opération d'enrôlement, identification enrôlement des électeurs, ou bien la résultante du travail du recensement et identification de la population. Mmh. Or, nous n'en avons pas. 2006, nous sommes allés aux élections sans un fichier électoral qui est beaucoup plus crédible, parce qu'on est parti avec des projections de démographiques de la population. Mmh. Et là où on a essayé de faire des manigances, et ainsi de suite, par-ci, par-là, deuxième
cycle... C'était chaotique.
Oui,
les premières élections étaient chaotiques.
Et le deuxième,
là, c'était en 2006.
En 2006, il y a eu des morts d'hommes. 2011, on croyait qu'on allait améliorer. On a encore essayé de refondre le fichier électoral. Mmh. La difficulté, que parce qu'on ne maîtrise pas le poids démographique de la population. Pour maîtriser le poids démographique de la population, il faudrait avoir identifié la population. C'est identifier la population, doter cette population de sa carte d'identité pour citoyen. Parce que la Constitution dit ceci. Un Congolais, tout détenteur de la pièce d'identité pour citoyen. Mmh. Est-ce que nous possédons ça?
Non.
Or, l'élection 2006.
On nous a dit 2011, que la carte d'électeur fait office de la carte pour citoyen.
C'est une escroquerie politique. Une escroquerie politique pure et simple parce qu'on a triché avec la loi. Il faudrait avoir ça. Mais pour avoir cette carte, il faut passer par identification, enrôlement des électeurs. Et cette opération est menée par une structure publique de l'État, du ministère de l'Intérieur, que nous appelons Office National d'Identification de la Population, ONIP. Est-ce qu'on l'a fait? Non. Voilà le premier préalable. Parce que c'est de cette opération-là que la Commission électorale nationale indépendante va extirper les données des Congolais détenteurs des pièces d'identité pour citoyens ayant l'âge de 18 ans ou plus. Quand la CENI va extirper là, de la banque de données de l'ONIP, la CENI va faire maintenant à ce qu'on appelle cartographie électorale. Et de cette cartographie électorale, la CENI va produire une liste électorale fiable qui va rassurer tout le monde. Combien sommes-nous à Kinshasa? Les uns disent 18 millions, 20 millions,
12 millions, plus de 12 millions, on n'a pas de précision.
Kasaï Central, combien sont-ils? On ne connaît pas ni la ville de Kananga, ni les autres territoires. C'est cette difficulté-là où le politique en profite pour tricher. Donc, premier préalable. Deuxième, c'est quoi l'argent? Est-ce que nous avons le préalable financier? Nous avons l'argent déjà construit? Non.
Pour organiser de bonnes élections, il faut combien?
Pour organiser les élections, l'argent nous coûte très cher dans l'étude des fichiers de kits électoraux. 450 millions, 450 millions de dollars. Pour les fichiers, pour le kit seulement.
Seulement pour le kit.
Or, si on paie le recensement de l'ONIP, c'est 350 millions. Vous voyez, c'est moins coûteux et ça peut nous prendre un peu de temps et ça nous fait. Parce que la CENI elle-même reconnaît, pour faire le fichier électoral, parce qu'il y a ceux-là qui disent qu'on doit aller aux élections avec le fichier électoral actuel, ça va nous prendre 737 jours. Ça va nous coûter plus de 450 millions.
Avec
le fichier actuel.
Or, c'est pas possible. Il y a eu des nouveaux majeurs, il y a eu des personnes mortes, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé.
Il faudrait exciper tout ça. Mais qui Congolais accepterait d'aller encore aux élections avec la carte d'électeur? Les gens n'ont plus confiance en ça. Carte d'électeur, non. Si on dit, fini, mettons fin à l'escroquerie électorale avec la carte d'électeur comme pièce, carte d'identité pour citoyens.
Parce qu'il y a eu des étrangers qui se sont retrouvés avec ces cartes.
Mais on a volé des kits dans des pays frontières, on a volé des kits d'enrôlement. Oui. Ils ont produit. Or, avec l'identification de l'ONIP, on va sécuriser l'électorat. Ça, c'est, nous avons recensement, moyens financiers, est-ce que nous avons l'argent, le budget. On a prévu l'argent pour le billet pour les élections 2023. dans le budget actuel, il n'y a pas suffisamment d'argent prévu. Nous avons dit le 2 novembre 2020, nous avons rencontré le président de la République, quand il nous a reçu, nous, de thématique élection, nous avons dit...
Lors des consultations,
j'ai dit au président de la République, monsieur le président, vous devez construire ce qu'on appelle fonds spécial pour les élections, vous allez tirer cet argent dans les lois budgétaires 2022 et 2023. Mais quand nous avons la planification, il n'y en a pas, cet argent n'est pas seulement programmé. L'autre aspect, revenons même pour le recensement, il n'y a pas l'argent pour le recensement. Donc il faudrait que le gouvernement qui va sortir puisse amener un collectif budgétaire auprès de l'Assemblée nationale, qu'on puisse mettre l'argent pour le recensement. À ce moment-là, on voit que on tend vers le tunnel de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. L'autre aspect, c'est le défi ou bien préalable légal. Il faut avoir une loi. Loi sur identification et recensement de la population. Cette loi, c'est l'Assemblée nationale qui doit produire cette loi.
Et certains disent qu'il faut revenir au scrutin, au mode de scrutin à deux tours.
Mais c'est ça. Et ça va affecter, ça va impacter aussi la révision de la Constitution. Donc, vous voyez, la loi électorale aura aussi un impact sur la Constitution de la République. Et tout ça, tous ces paquets.
Avec le délai, dans les délais qui nous restent, est-ce qu'on peut faire tout ça?
Si on le fait aujourd'hui, 2021, en 2022, le recensement et l'identification de la population avec l'ONIP, ça peut aller. Si on fait, on commence à dire, parce que la plupart des chèques des élections à travers le monde, cher ami, c'est le déficit de planification. Nous n'avons pas planifié. Jusque-là, rien n'est planifié.
Quand c'est mal préparé, on risque d'avoir des...
Non, c'est les élections chaotiques.
C'est chaotique.
Si on va dire non, on ne va pas mal préparer, on va glisser. À ce moment-là, les élections congolaises seront organisées au-delà du délai constitutionnel. Or, quand on organise les élections au-delà du délai constitutionnel, ce ne sont plus les élections classiques qui respectent la périodicité de la tenue des élections selon la loi, l'esprit et la lettre de la Constitution. Ça devient des élections atypiques. Et comment s'y prendre pour s'en sortir? Donc, à ce moment-là, on risquerait de ne pas organiser les élections apaisées. Ce sont les élections qui vont déboucher sur les conflits, sur des contestations. Et c'est pourquoi nous disons aux acteurs politiques, nous avons défi, fichier électoral et recensement, identification, tout en sachant que le recensement n'est pas conditionné, la tenue des élections n'est pas conditionnée par le recensement, parce qu'il y a certaines voix qui disent, on peut aller aux élections sans réformer, avec une réforme ou pas. Non, on ne peut pas aller aux élections.
Mais c'est ce que le président de la commission électorale indépendante a dit.
Parce que pourquoi on doit aller aux élections réformées? On fait l'évaluation. Si on doit aller sans réformer, c'est que les élections précédentes étaient meilleures. Il n'y a pas eu contestation. Est-ce que les élections précédentes, est-ce qu'on avait affiché les listes, les résultats dans chaque bureau de vote? Est-ce que les élections d'hier, en 2018, est-ce qu'on avait transmis les résultats par les canaux habilités légales, par les canaux légaux, qui étaient les résultats physiques et les résultats électroniques? Or, on a tablé sur les résultats électroniques. Donc, on peut encore aller comme ça, sans réformer, parce que réformer veut dire changer en améliorant. C'est que les élections de 2018, ceux qui disent on doit aller sans réformer, c'est que c'était bonne. Était meilleur du plan organisationnel, du plan planificationnel, du plan de l'acceptation des résultats. Tout le monde a contesté. Donc, comment nous devons aller sans réformer avec les élections où les uns sont encore jusqu'à aujourd'hui à la recherche de la vérité des urnes?
Donc, c'est pas possible. On ne peut pas aller dans ces conditions-là.
C'est une aventure de dire d'aller vers les élections sans réformer. Non, ce serait une aventure.
Oui.
Donc, on doit, c'est cela. Et dire que les réformes doivent être précédées par l'évaluation. De cette évaluation qu'on dit, qu'est-ce qui n'a pas marché sur les élections lors des élections de 2018? Et c'est là où on doit impérativement réformer. Réformer avant de penser. Vous avez posé la question des
D'accord.
animateurs.
Un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Apla Chino de Matadi et Patrick de Gombe. Apla, bonjour. C'est Alpha. Alpha Kingo, voilà, Tati, c'est Alpha Kingo et non Aplatino. Alpha, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour aux auditeurs, tout particulièrement à M. Jérôme qui les salue. Ici, j'interviens rapidement comme point focal de la plateforme AETA au Congo central et représentant des carreaux au Kati Matadi. En tout cas, je soutiens avec 100% M. Jérôme Bonso et je souscris déjà en faux, en passant, sur ce que le président de la CENI a déclaré récemment pendant une activité où il a participé avec l'Ordre national des experts électoraux, disant qu'on peut faire des élections, on peut aller aux élections sans ou avec réforme. Imaginez qu'on puisse aller aux élections dans ce pays sans réforme. Monsieur Jerry Daniel Kachama, le pays a connu des élections depuis, je ne sais pas, 2006 jusqu'aujourd'hui, avec des difficultés énormes, mais on a eu quand même des réformes. Et qu'on puisse aller en 2022 sans réforme, ça sera un chaos terrible. Voilà pourquoi nous, au niveau de l'AETA, nous avons déjà commencé à proposer des idées, des initiatives sur la population peut facilement comprendre que nous voulons un état de droit normal. Ce n'est pas la justice seulement, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les autres secteurs, mais les élections qui permettront qu'on puisse avoir des nouvelles institutions fiables, démocratiques, fortes. Il faut qu'il y ait des réformes. Tenant compte de tous ces éléments que nous essayons maintenant de soutenir là, si le peuple aura une écoute vraiment ouverte sur, d'ailleurs, la CENI est déjà partante, c'est une équipe sortante, pourquoi on doit la voir comme des conseillers?
D'accord. D'accord, merci. Merci Alpha. D'accord, merci Alpha de Matadi. Patrick, vous êtes à Gombe, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au préalable avant l'organisation des élections?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Alors, à mon avis, qu'il y ait réforme ou pas, mais tout est problème de nous-mêmes, les hommes, les individus, parce que on peut changer aujourd'hui les animateurs. On peut faire des réformes. D'ailleurs, vous verrez que selon à chaque mandat, chaque cycle électoral, selon les partis politiques qui seront au pouvoir, ils auront toujours soit avoir à tirer les rideaux de leur côté. Alors, le problème se situe au niveau de la compréhension ou soit de l'acceptation des résultats. Il y a le problème se pose seulement à ce niveau-là, l'acceptation des résultats. Et vous avez les partis politiques qui ont des difficultés pour atteindre les bureaux de vote où sont déployés différents bureaux de vote. Les partis politiques ont des difficultés à atteindre ces bureaux de vote-là. C'est pour cela. Quand il y a les résultats de la CENI, ces partis-là, évidemment, ont des difficultés pour accepter les résultats. Donc, si on pouvait proposer à la CENI, qui ne peut pas être un organe à disparaître à chaque fin de cycle ou de mandat, que ça disparaisse ou qu'on change encore des animateurs, ça pouvait être quelque chose qui pourrait rester permanent, de manière permanente. Alors, donc je disais que si la CENI pouvait aider les partis politiques, c'est-à-dire au départ, avant qu'on ne parte aux élections, ils présentent, voilà, les personnes qui sont appelées à voter. Voilà leur nom, leur liste, vous les avez. On leur distribue ça. Et la CENI, au lieu d'attendre les partis politiques, la CENI déploie aussi à son tour les éléments, des petits présidents, si je peux dire comme ça, des petits présidents, auprès de chaque centrale, ceux qui basent, chaque parti politique, ils déploient des éléments là-bas pour suivre, comme qui dirait, en direct les opérations des votes et jusqu'à la publication. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet.
Parce d'accord.
Réforme,
merci.
Il y en aura toujours, etc.
D'accord, merci Patrick de Kinshasa. Lucien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur les journalistes.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au préalable à réunir pour organiser des bonnes élections?
Oui, en tant que Congolais 100%, moi je trouve anormal qu'on nous parle des élections au jour d'aujourd'hui sans l'organisation de l'opération du recensement. Nous ne pouvons pas aller aux élections aussi longtemps que nous ne nous connaissons pas d'abord. Nous les Congolais, nous sommes au nombre de combien? Vous savez tout ce qu'on dégage là comme 82 millions, 90 millions. Ce n'est que de la spéculation. Personne n'a compté les Congolais. Et ça fait une trentaine d'années qu'on n'a jamais organisé ni l'identification ni les recensements. Et puis les gens ne doivent pas confondre l'opération d'identification à celle du recensement. L'identification, c'est autre chose que les recensements. Et nous proposons, au niveau du Kasaï central, qui est l'organisation du recensement, parce que le recensement englobe les tout. Et puis même si on déclenchait les recensements aujourd'hui, ça n'empêche en rien l'organisation des élections. Les élections, c'est pour les Congolais, et nous voulons que seuls les Congolais puissent aller aux élections. Parce que ça fait longtemps qu'on a été infiltrés, et aujourd'hui nous souffrons quand il se retrouve un non-Congolais à la tête du pays, et nous souffrons beaucoup, nous on ne se retrouve pas. On a besoin qu'on comprenne d'abord par l'identification.
D'accord.
On sache qui est qui.
Qui est congolais et qui ne l'est pas. D'accord. Oui. Merci, merci, Lucien.
On passera aux élections par après. Nous ne sommes pas pressés pour aller aux élections. On doit d'abord se connaître dans la maison.
Oui.
Nous sommes à combien? On a combien de détails? On a combien d'enfants? Combien de lits? Combien de chaises cassées? On doit connaître tout ça parce que c'est un type de pilotage du gouvernement. Qu'on laisse le gouvernement d'abord mettre la main sur toutes les statistiques de sa population.
Merci Lucien de Kananga. Achille Kassereka, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour papa, je dis Daniel Kachan.
Quelle est votre question, Achille?
Oui, moi, je n'ai pas de questions. C'est moi, c'est André de vouloir intervenir parce que moi, je suis un vrai bibolé. Vraiment, la chose à laquelle nous avons assisté aux élections de 2018 ne nous avait pas plu. Parce que moi, chez moi, je voudrais que je ne voudrais pas qu'il y ait quelque chose de dire qu'on va passer encore à la réforme ou à quoi que ce soit. Mais les affaires, on puisse aller directement aux élections 2023 parce que je crois que notre mandat prévoit seulement 5 ans pour les élections. Et si on passait encore à des choses comme des ressassements et autres choses, ce sont des choses qui pourraient peut-être nous amener jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les élections 2023.
Bien, merci. Achille dit qu'il faut aller directement aux élections en 2023. Benjamin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Capitale.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Benjamin?
Merci beaucoup, monsieur Jody, de m'avoir passé la parole. D'abord, je vais commencer par dire que moi, l'élection, comme vous le savez, vient du verbe élire. Mais élire ne signifie pas nommer ou ne signifie pas choisir. Et parfois, c'est triste de constater qu'en République démocratique du Congo, certains représentants du peuple sont nommés et ne sont pas élus. Pourquoi? Parce que nous avons vécu le pire en 2018. Vous-même, vous êtes témoin. Il y a eu des contestations par-ci, par-là, lorsque les élections présidentielles ont été tenues, voire les élections législatives.
D'accord, rapidement. Alors, rapidement, quelle est maintenant votre préoccupation?
Bon, la préoccupation, pas une préoccupation comme telle, mais je dis, c'était une contribution par rapport à cette émission parce que nous tendons vers l'atteinte des élections en 2023. Moi, je souhaiterais que certains préalables soient réunis avant même qu'on arrive en 2023. La première chose, comme des voix sont levées de gauche à droite, il faut d'abord passer au recensement. Pourquoi c'est important, M. Jody? Parce que dans tout état démocratique, le gouvernement doit avoir la maîtrise de sa population, des nombres de ses habitants. Mais chose bizarre, la République démocratique du Congo, parfois quand on donne les statistiques, on n'a pas de précision. Donc, on doit faire le recensement. C'est un peu important.
D'accord, donc, merci. Vous soutenez qu'il faut d'abord l'organisation du recensement. Honorable Willy Mubobo, vous avez la parole.
Oui, M. Jérôme Bosso, qui, à chaque fois qu'il y a élection, il intervient généralement brillamment. Mais je pense qu'il revient toujours à la même chose. Il donne plus de préalables que sans cela, il n'y aura pas élection. Sans cela, il n'y aura pas, on ne peut pas avoir les élections. Non. J'ai dit tantôt que la bonne foi des acteurs politiques doit jouer. Vous voyez, même si on organise les élections avec la carte d'électeur, même si on organise avec la carte d'identité, mais il n'y aura plus de contestation. Les contestations ne peuvent pas être justifiées à ce qu'on puisse reporter les élections. Je pense que si le gouvernement met l'argent en place, il a parlé aussi des problèmes budgétaires. Moi, je pense que c'est toujours question de bonne foi. Si on veut organiser les élections, on peut dégager l'argent et peut organiser l'identification ou le recensement avant 2023 pour qu'on ait les élections en 2023. Mais connaissant l'homme congolais, l'homme politique congolais, parce qu'il y a des élus qui sont là, qui soutiennent, qui veulent rester jusqu'à après 2023. Ils vont certainement voter des lois pour retarder les choses, pour qu'ils y restent, parce qu'ils n'ont pas intérêt à aller encore à la campagne maintenant. Donc s'ils ajoutent une année ou deux ans, ils seront peut-être plus contents. Alors c'est à eux qu'on demande de réformer. Les réformes doivent venir certainement de l'Assemblée nationale. Mais ici, le problème, c'est que le gouvernement débloque l'argent pour tout ce qu'il a cité comme préalable. Mais moi, en tout cas, connaissant l'homme congolais, je suis pessimiste quant à ce qu'il dit qu'on doit attendre, il y a tel préalable, non. Ici, moi, j'insiste, je persiste et je signe, je dis, tout dépend de la bonne moralité ou la bonne volonté des hommes politiques. Ça, c'est la première condition. Et je reste ferme à cette condition-là. Si les gens sont de bonne moralité, ou ils ont une bonne probité morale, ils vont organiser les élections, bien sûr, en finançant ce que M. Mbonso a dit comme préalable, recensement ou identification, et les autres auditeurs. Sans cela, en tout cas, je ne vois pas les élections, de bonnes élections.
Bien, merci, honorable Willy Mbobo. Je rappelle que vous êtes député honoraire. Bonne journée.
Merci à vous, autant merci.
Bien. Nous parlons des préalables à réunir pour l'organisation des bonnes élections en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Quels sont les préalables à réunir pour l'organisation des bonnes élections en République démocratique du Congo en 2023? Jérôme Bosso, vous avez suivi les différents intervenants. À vous la parole.
Je suis d'accord avec le compatriote et leurs soucis exprimés. Et je vois notre ami de Kassai Central qui parle qu'on peut recourir à l'identification et recensement, mais on doit faire attention parce que quand on parle recensement sans donner un contenu technique, un contenu logistique, un contenu opérationnel en termes de facteurs temps. Les gens ont peur quand on parle recensement, ça va nous prendre 4, 5 ans, 6 ans, sans pour autant atteindre l'objectif d'ailleurs, sans respecter les délais constitutionnels qui est 2023. Nous disons ceci, les experts et les techniciens de l'Office national d'identification de la population disent dans moins d'une année, dans une année, avec 350 millions, on a le recensement. On a le fichier et la banque des données de la population.
La cartographie de la population
congolaise. Chaque citoyen est détenteur de sa carte d'identité pour citoyen et le numéro d'identification nationale. Voilà cet avantage, c'est déjà un acquis. Donc nous ne devons pas politiser le terme recensement. On doit aller directement aux élections. Oui, monsieur. Nous sommes dans un monde organisé. Allons directement aux élections. On vous dit que la route qui mène Bandundu-Villa à Kinshasa est coupée en deux. Vous dites non, on doit aller directement à Bandundu. On doit aller déposer les gens de Marseille. On vous dit que les gens qui sont du côté Popokabaka et autres, c'est coupé en deux. Vous ne pouvez pas passer. Non, il faut aller. Vous allez passer par où? Donc c'est ça ce qu'on appelle préalable. Sans lesquels vous ne pouvez pas organiser les élections. Donc, il ne suffit pas d'organiser les élections. Il faut voir les élections, donc, comme un intervenant a dit, dans le défi de l'acceptation des résultats. Mais quand vous allez faire les élections sans réforme, avec un fichier électoral, sans identification, sans une pièce d'identité selon la que c'est conformé à la Constitution. Vous dites non, on doit aller aux élections sans réforme.
Et certains ont déploré, par exemple, dernièrement, la corruption qu'il y a eu dans l'élection des parlementaires, des sénateurs.
Mais c'est ça.
Et les voix se sont élevées pour dire non, il faudrait plus que ça soit un scrutin direct.
Mais avec ça, vous dites que vous devez aller sans réforme. Donc c'est pour recourir encore dans les abus d'hier, de 2018. Nous ne pouvons pas amener le peuple congolais aux élections comme des vaches qu'on amène à la pour dire allons sans réforme. Non, nous devons être nous-mêmes responsables. Nous devons, en tant que techniciens, nous devons aider l'opinion, nous devons aider l'opinion politique pour dire voilà tel préalable, pour y arriver, il faut faire telle réforme. Si nous étions dans le pays de vieille démocratie où les élections sont organisées par le ministre de l'Intérieur avec l'état civil et avec toutes les données maîtrisées, les données démographiques, on dit ok, on va aller sans réforme, on va réformer.
Et là-bas, ils ont des primaires, on organise par exemple.
Ils ont tout, c'est planifié. Mais chez nous, vous allez nous amener aux élections sans réforme. Avec quel fichier électoral? Avec quel moyen? Avec quelle transmission des résultats? Avec quelle publication des résultats? Or, il faut un cadre légal pour légaliser la transmission des résultats par voie électronique.
Faut-il continuer à utiliser la machine à voter ou pas?
Oui, mais c'est ça l'importance de la réforme.
La machine à voter.
Qui est toujours étrange, bien, mais c'est une bonne technologie électorale qui va nous mettre encore dans la merde pour dire, allons sans pour autant qu'on puisse légaliser l'usage de la machine électorale, parce que ça
machine
a été
à voter,
ça,
oui.
Machine à voter, c'était tombé comme un cheveu dans la soupe et on l'a accepté malgré nous parce qu'on devait respecter les délais constitutionnels. C'est pourquoi nous disons, honorable Willy, je dis ceci. Jérôme Bonson ne tient pas des préalables pour préalables. Donc, c'est pour éclairer l'eau politique. Pour dire, honorable, on doit respecter le préalable sans lequel les élections que vous voulez avoir, ça sera des élections
battues. Lui de parle déficit. Plutôt de la bonne foi, de la mais bonne moralité des hommes, de l'homme politique congolais.
Quand la volonté y est, c'est ce que nous appelons en termes électoraux, le porteur politique du procès électoral. Souvent, c'est le président de la République, c'est le Parlement, c'est le gouvernement, suivi des organisations de la société civile et des partenaires extérieurs. Quand ceux-là, porteurs politiques, n'ont pas la volonté de disponibiliser le moyen à temps pour doter la CENI et le processus électoral d'un cadre légal, ils ont fait à la loi portant organisation et identification de la du recensement, recensement, et sans lequel pour dire que CENI ne va plus faire l'aventure de faire l'identification normale des électeurs. Non, ça ne sera plus le travail de la CENI, parce que c'est un travail coûteux, ça sera un travail de l'ONIF qui va faire, et la CENI va tirer les résultats de l'autre côté, et il va faire son travail. Et quand on dit, par exemple, il faut attendre, il faut reporter les élections, non, on ne doit pas reporter les élections. Nous disons, nous devons respecter la périodicité des élections. C'est une exigence constitutionnelle. Nous avons reporté, en termes congolais, nous avons glissé. Il y a eu un glissement du délai glissement du délai constitutionnel que nous ne pouvons pas accepter pour dire les uns et les autres, le moyen disponibilisé, on parle. Mais il y a un autre défi important, c'est le défi de la logistique. Est-ce que nous avons tous les outils nécessaires dans de... Si on ne fait pas attention, parce que appel d'offres de matériel, quand il y a eu problème au niveau de machines à voter. Machines à voter, on les avait achetées sans appel d'offres. Or, la loi exige, pour tout matériel, au montant de passant, il faut recourir à appel d'offres. Or, appel d'offres et matériel, du point de vue logistique, ça nous prend 7, 8, 10 mois. Et comment s'en sortir? Et quand nous allons le faire à la hâte, prendre vite, vite, par avion, ça va augmenter l'enveloppe des élections. C'est pour nous dire, nous devons être conséquents pour dire la logistique.
Jérôme Bosso, aussi le temps. On va accueillir Kamanda depuis Durba. Kamanda, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama. Bonjour aux invités ainsi qu'à tous les invités de la radio.
Rapidement, quelle est votre question?
Oui, j'ai suivi avec intérêt et ça me plaît beaucoup de suivre que de telles analyses continuent. Vous savez qu'à ce stade ici, tout le monde est en train d'attendre 2023 pour l'organisation de ces élections. Alors que déjà certaines questions pertinentes se posent dans l'opinion, notamment les préalables avant ces élections-là. Ce sont des bonnes choses qui doivent normalement interpeller nos politiciens congolais s'ils n'ont pas de mauvaise foi pour que ces élections-là aient lieu normalement en 2023. Ils doivent prendre en considération tout ce qu'on est en train de dire maintenant ici. Maintenant, ma question est celle de savoir, je la pose aux invités. Est-ce que les préalables-là ne peuvent pas se passer simultanément? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre, au même moment qu'on est en train de voir comment faire les réformes, et précipiter aussi un peu vite pour voir comment amener les autres animateurs, parce que ceux qui sont actuellement sont déjà hors mandat, et pour que les choses se passent quand même dans les délais constitutionnels. Voilà donc ma petite question.
Merci. Gilbert Loko Adembandaka, bonjour.
Bonjour la radio papier, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Gilbert?
Oui, j'ai une question à poser à l'invité, mais avant tout, je dois être clair, on va aller aux élections en 2023, mais pour aller aux élections, il faut d'abord des réformes. Les réformes sont très, 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 très importantes, parce que si on a vu comment les élections se sont passées en 2011 et 2018, on ne peut pas aller aux élections de 2023 sans qu'il faut avoir des réformes conséquentes au niveau des élections. Et la question que je voulais poser à l'invité, c'est de savoir, aujourd'hui on parle de réformes, on parle de préalables pour aller aux élections en 2023, mais vu l'État, vu les moyens qu'a le Congo aujourd'hui, on ne peut pas tout réformer, parce que si on arrive à tout réformer comme le pensent les autres, et ça doit non seulement nous coûter l'État, mais aussi les moyens. Je voulais poser cette question à l'invité. Aujourd'hui, au Congo, quelles sont les réformes prioritaires pour aller aux élections en 2023? Parce que si on va tout globaliser, on nous dit seulement qu'il faut des réformes, et ça nous va nous situer les réformes les plus importantes. Là, on va passer des débats et débats, tant qu'il faut aller aux causes, aux besoins. Et c'est ça la question que je voulais vous inviter et je vous remercie pour m'avoir donné la parole.
Merci. Henri Christian Ongenja, vous êtes secrétaire exécutif du collectif 24. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Voilà, le collectif 24 est un mouvement qui lutte pour le droit d'accès à l'information. Nous parlons de préalables à réunir pour organiser de bonnes élections en 2023. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, Henri?
Bon, moi j'estime que parmi les préalables, il y a surtout cette question des réformes, des lois qui doivent accompagner les processus, parmi lesquelles il y a la loi électorale, il y a la loi sur la CENI, et surtout aussi la loi d'accès à l'information, parce que nous pensons que ces réformes doivent se passer dans la transparence totale. Et lorsque les gens n'ont pas accès à l'information, les réformes risqueraient d'être poussées, et à ce moment-là, on ne va pas atteindre les résultats que nous voulons. Voilà pourquoi il est important, parmi des lois qu'il faut voter, que la loi d'accès à l'information soit inscrite en priorité. Malheureusement, là, nous constatons que l'Assemblée nationale n'a pas aligné cette loi. Pourtant, elle a été déposée officiellement par l'honorable Moïse Nyarugabo et acceptée par le gouvernement qui a donné son avis favorable après l'avis d'étude. Mais nous estimons qu'il n'est jamais temps et qu'il est important que cette loi-là soit traitée en urgence. Et c'est ce qui va garantir tout le monde de la transparence même de toutes ces réformes-là. Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons espérer passer aux élections en 2023 dans la transparence totale.
Bien, merci Henri Christian Ongenja, secrétaire exécutif du collectif 24. Bien, Jérôme Bonso, à vous la parole.
Merci à notre ami qui a parlé de préalables qu'on pousse. Les préalables sont là, on doit les transformer en opportunités opérationnelles. Ce sont des
Gilbert Lecoy veut dire, on parle des réformes en général. Oui, mais qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on doit réformer concrètement?
À l'heure qu'il est, oui, aujourd'hui, un, réforme, restitution de la loi organique portant organisation fonctionnelle de la CENI, désignation des nouveaux animateurs. Deux, ce sont avec l'équipe des nouveaux animateurs de la CENI, ils vont accompagner le gouvernement et l'Assemblée pour la réforme de la loi électorale. Dès qu'on a ça, en amont, on a déjà le recensement et l'identification de la population et on y va. Le réforme prioritaire, voilà, c'est loi sur la CENI, organisation, loi électorale, précédée par identification et enrôlement, qui va nous prendre un an avec 350 millions de dollars. On va avoir déjà le fichier que la CENI va faire son travail de cartographie et d'élaboration de la liste électorale.
L'honorable William Mbobo a dit tout à l'heure qu'il faut aussi passer une loi par rapport à la double nationalité pour permettre aux compatriotes qui sont à l'étranger de participer au
vote. Mais c'est la loi que nous appelons loi sur identification et recensement. Loi sur le recensement et identification de la population. Et c'est là où on va donner l'opportunité à nos compatriotes qui sont à l'extérieur pour qu'ils puissent aussi se faire enrôler, identifier. Le problème de ces organisations opérationnelles s'est posé, est-ce qu'on ira sillonner l'Europe, l'Amérique, l'Asie pour le faire? Est-ce qu'on aura un budget suffisant? Mais à mon niveau, j'avais déjà catégorisé ces gens par base sur des zones Europe, zone Amérique, zone Asie et ainsi, et on allait s'en sortir à travers nos ambassades. Je salue aussi notre ami Henri de Collectif 24. Il faut l'accès à l'information, parce que l'information, c'est de soubassement, de la transparence. Pourquoi on a transmis? Quand les gens ont condamné la CENI, n'avait pas transmis les fichiers, on n'avait pas affiché les résultats des élections devant le bureau de vote, comme la loi l'exigeait. Il y avait déficit de l'information, les gens n'étaient pas informés. Même la CENI n'a pas informé pourquoi. La CENI a refusé d'afficher les résultats bureau par bureau de vote, centre par centre, et le communiquer. Et quand on allait au niveau de la Cour constitutionnelle, pour les requêtes, on devait avoir le soubassement physique et le soubassement électronique.
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait du donc on a faussé le à ce moment-là, on a violé la loi. Parce que la loi disait que les élections que nous avons organisées ne devaient pas être, les résultats ne devaient pas être transmis par la voie électronique pour le premier temps.
Jean Bosso, il y a certaines des voix qui se sont levées pour déplorer cette histoire où un parlementaire, il vient au Parlement avec sa femme comme suppléant, ses enfants, et c'est toute la famille qui se retrouve au Parlement.
Nous avons condamné, c'est l'immoralité électorale. C'est l'immoralité électorale. Parce que nous avons voulu que, dans la réforme que nous voulons, que tout le monde est d'accord pour dire, on ne peut pas aller aux élections à l'heure qu'il est en 2023 sans réforme de ce qui est prioritaire. C'est dans ce chemin-là qu'on va faire la loi électorale pour dire qui est suppléant de l'autre. Vous, monsieur Jody, vous êtes candidat. Mmh. Le suppléant, c'est moi qui suis de votre parti. Mais si vous avez...
Ce n'est pas ta femme, ta cousine ou tes enfants.
On doit arrêter cela. On doit arrêter qu'il doit y avoir des dispositions qui répriment ce comportement de délinquance électorale. C'est un comportement de délinquance électorale qui fait voir que dans un parti, il n'y a que votre femme et votre, vos enfants et votre famille qui avaient battu campagne pour vous. Et tous ces gens qui étaient derrière vous, comment vous les minimisez et vous êtes en train de sous-estimer ces gens-là? Et c'est pourquoi nous disons dans la réforme que nous voulons que après chaque élection, il y a évaluation. On décèle les failles et les points forts. Et dans les élections de 2018, nous avons dit qu'il y a eu autant de failles, beaucoup de failles. Beaucoup de rejets, beaucoup de contestations.
Il faut limiter la corruption qu'il y a eu, par exemple, lors des élections.
Mais c'est pourquoi nous voulons le mode de scrutin, même le président de la République en a parlé, oui, lors des consultations nationales, qu'on doit quitter de ce mode-là.
Indirect
pour le mode direct. Parce qu'un gouverneur de la ville de Kinshasa, 24 communes de la ville de Kinshasa, vous n'allez pas corrompre toutes les 24 pour être gouverneur. Et c'est pourquoi nous avons dit, il y a eu aussi là quelque chose d'immoralité électorale. Et pour mettre fin à cela, on doit revenir dans les réformes. Nous disons, nous le voulons dans les réformes.
Et par rapport à cette question du seuil de représentativité, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Le seuil de représentativité, c'est aussi un moyen de limiter autant de candidats. Mais nous avons vu qu'il y a eu une inflation des candidatures au regard de ceux d'éligibilité. Et les élections, le processus électoral étant dynamique, c'est pourquoi nous avons dit quand on va réformer la loi électorale, qu'on puisse voir soit rejet du seuil de représentativité, soit le maintenir à un degré aussi acceptable. Et là-bas aussi, il y a aussi la caution électorale. Mmh. La caution électorale qu'on donne. Et tout d'un coup, il y a une contradiction même au niveau de la loi. Et on dit, on essaie de minimiser les candidats indépendants et autres. C'est pourquoi nous disons, nous devons introduire, nous devons innover. Innover pour vous dire que nous avons fait les élections de 2006, de 2011, de 2018, on a toujours réformé la loi. Mais est-ce que nous avons obtenu les résultats escomptés? Disons non. C'est pourquoi? Parce que les acteurs politiques, ils ont politisé la Commission électorale nationale indépendante.
Il faut dépolitiser
la CENI.
Comment le
faire? Par l'apport des acteurs politiques, des experts qui sont des organisations de la société. Parce que quand vous mettez un politique qui était candidat, comme le disait l'ancien président de la CENI, Femanda, il disait que il faut mettre de côté tout celui qui était candidat, élu et non élu, et tout celui qui a une contestation d'un parti politique.
Vous voulez parler du feu Malomalo?
Non, l'ancien, c'est l'actuel, notre ami Corneille, qui a fait allusion à ça. C'est pour nous disons que on doit, la dépolitisation de la CENI se fait en amont et en aval, dans la désignation des animateurs de la CENI.
Dernièrement, on se souvient que les religieux, les organisations religieuses se sont retrouvées pour désigner les responsables de la CENI, mais il y a eu beaucoup de chahuts autour de cela.
Non, ils sont pas pour désigner. Ils s'étaient retrouvés, le père spirituel était retrouvé pour anticiper et voir comment il devait à l'interne procéder à désignation. Parce que maintenant, c'est avec l'esprit de la nouvelle loi Lutundula, ce n'est plus de confession religieuse qui vont désigner le candidat, le président de la CENI, ils vont envoyer les délégués, au moins 3 ou 4 délégués à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va faire une commission, mettre sur pied une commission ad hoc, cette commission qui va statuer sur des candidatures, tout en sachant que celui qui va sortir président de la CENI viendrait de la société, des organisations de la société civile. Donc, les confessions religieuses ne vont pas envoyer le candidat président, ils vont envoyer les délégués des confessions religieuses. C'est comme la majorité va envoyer 5 délégués, selon la loi Lutundula, l'opposition 5 délégués, société civile 5 délégués, dont les confessions religieuses vont envoyer 2 délégués, et au mouvement des femmes 1 délégué, et aux éducations civiques 2 délégués. De tous ces paquets qu'on va présenté à l'Assemblée nationale. Une innovation. Avant, les confessions religieuses envoyaient à l'Assemblée nationale un seul nom. Cette fois-ci, ils ne vont pas envoyer un seul nom. Il faut envoyer trois noms pour un candidat. Mais si on va leur donner un quota de deux délégués, ils vont envoyer six noms. Et c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on va faire les triages. Parce qu'on doit...
Jérôme Bosso, rapidement, on va terminer avec deux auditeurs. Michel Panzou d'Egbadolité et Safari depuis Igabarrière. Michel, bonjour.
Ouais, bonjour Jeudi et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Soyez bref, on n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a plus de temps, en fait, parler de l'organisation des bonnes élections en Afrique en général, c'est un peu difficile. Mais sinon, on va quand même placer un mot. Quels sont les préalables pour qu'on organise des bonnes élections en République démocratique du Congo? Je pense que il y a trois préalables à mon avis. Premièrement, il faut d'abord les réformes. Et puis, des deux, il y a le dialogue autour des acteurs politiques. Et puis, troisièmement, il faut les moyens nécessaires. Donc, si je prends le premier point, pour parler des réformes, je pense que longuement, il y en a, le groupe des G13 en a parlé. Il y a également des propositions dans ce sens. Il faudra voir là où il faudra amender, à ce qui concerne d'abord
D'accord, merci. Merci Michel. Merci Michel. Safari, merci Michel. Safari, vous êtes à Igabarrière. Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Je vais dire ceci. Tout ce qui tourne autour des élections, c'est ce qui tourne autour des présidents de la CENI. Donc, c'est là, mes forces à dire que si vous voulez avoir une élection libre, transparente, cohérente, il faut que ces qualités-là soient données à monsieur le président de la CENI. Donc là, je crois que pour avoir les élections prochaines qui seront des élections, des bonnes élections, il suffit de voir si les élections qui ont donné le mandat actuel n'avait pas marché. Là, il faut catégoriquement changer monsieur le président.
Voilà, merci. Il faut changer le président de la CENI. Monsieur Jérôme Bosso.
Nous voulons que les élections puissent être apaisées, doivent être précédées par un consensus électoral national. Ces consensus est dégagé au niveau des institutions de la République, au niveau de l'Assemblée nationale, qui est ce consensus pour qu'on puisse s'en sortir. Et les réformes comme telles, nous disons qu'il y a aussi un défi, ou bien préalable, le facteur temps. Si vous n'avez pas le temps pour organiser les élections, et que vous allez le faire en dehors du temps normal, et vous allez déboucher sur la débâcle électorale. Et aussi, nous avons répéter le moyen financier, le moyen logistique et le moyen opérationnel pour le faire. Nous sommes contents au Congo. La CENI, nous avons déjà une expérience de plus de 18 ans en matière d'organisation des élections. Nous avons des techniciens, mais c'est la volonté. Et que cette volonté politique puisse se manifester cette fois-ci lors de la rentrée parlementaire, que l'Assemblée nationale puisse accélérer rapidement le processus de réforme.
Est-ce que c'est déjà aligné?
Oui, c'est déjà aligné. Loi Lutunde est déjà aligné.
D'accord.
Mais ce qui n'est pas encore aligné, c'est le budget pour l'identification et l'enrôlement de la population. Et c'est pourquoi nous disons, on ne doit pas amener le peuple congolais aux élections qui vont, nous on sait que ça va être bâclé, comme 2006, 2011 et 2018. Nous voulons que 2023 puisse être différent des cycles électoraux précédents. Et par conséquent, nous sommes obligés de procéder par les réformes avant d'entamer les élections. Faire le cas contraire, faire les élections sans réforme, c'est nous amener dans un chaos électoral, une débâcle électorale où on aura difficile à maîtriser. C'est pourquoi nous disons que les uns et les autres devons nous investir pour faire pression au niveau du pouvoir public, niveau de l'Assemblée.
On a l'impression que les religieux s'investissent beaucoup plus dans cette question électorale.
Mais tout le monde, les religieux font partie de ce qu'on appelle partie prenante, sont de la société civile. La société civile s'investit. Maintenant, du côté politique, le politique aussi doit s'investir. Et le politique a son agenda, parfois connu et inconnu. Et c'est de cela, de ces pressions que nous pouvons faire bouger le politique, de disponibiliser les moyens suffisants pour l'identification et l'enrôlement des électeurs, de disponibiliser les moyens suffisants pour que les élections puisse être organisé dans le délai constitutionnel.
Déjà, on dit avec Covid, il n'y a plus assez de recettes dans la caisse de l'État. Comment mobiliser tous ces moyens-là?
On va, la volonté est là, on va s'endetter. L'État, non, on ne peut pas compter sur le partenaire. On doit compter sur nous-mêmes.
Le financement avec
les
moyens propres
qu'on doit mobiliser parce que les élections précédentes, nous n'avons pas eu l'argent de partenaires extérieurs. C'est le Congo parce qu'il y avait la volonté politique de le faire sans recourir à l'apport extérieur. Mais l'apport extérieur n'est pas refusé. Il est toujours et il sera toujours le bienvenu, mais tout d'abord l'apport interne de nous Congolais que nous devons mobiliser le moyen et nous devons acquérir, développer le consensus et avoir une CENI différente des CENI précédentes.
Bien, Jérôme, bonsoir président de la Ligue Nationale des Électeurs, l'INELIT, merci et à la prochaine.
Merci, merci Gilles.
Bien, fidèles auditeurs, nous allons suivre les informations tout à l'heure et on va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission où nous allons parler de comment protéger les villages contre les attaques des éléphants. Il y a des éléphants qui attaquent les villages, par exemple dans la province du Katanga, Bukama, Malemba, Nkulu, et les villages c'est vide. On en parle tout à l'heure dans Okapi Service.